Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci de votre fidélité à Radio de la Paix. Encore un autre rendez-vous d'Economia qui vous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans l'univers économique. Aujourd'hui, zoom sur la production pétrolière et gazière en Côte d'Ivoire avec, bien sûr, cette information de la production de gisement baleine qui est entrée à sa deuxième phase donc, de production. L'information a été rendue publique en décembre dernier. Nous allons nous intéresser à ce sujet-là parce que, de plus en plus, on nous annonce donc les découvertes de pétrole. Il est important de mieux comprendre les retombées de ces découvertes pour notre économie. Et cela, nous allons donc nous tourner vers Serge Parfait-Diomande, expert des questions pétrolières et énergétiques, qui sera notre invité. Et puis, vous aurez aussi la découverte des opérateurs économiques, bien sûr, qui sont disséminés sur tout le territoire national. Et nous nous retrouverons donc à Kounfao pour découvrir une charmante dame qui nous parlera de son activité. Une commerçante assez dynamique dans cette ville et ce sera donc dans le cadre de cette émission que vous suivez chaque semaine. On démarre maintenant.
Regard sur la gestion économique nationale.
Univers des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Le gisement Baleine est entré dans sa deuxième phase de production en décembre dernier, selon l'annonce faite par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui indique dans un communiqué que la société italienne Eni et son partenaire ivoirien Petrosi Holding ont procédé au démarrage avec succès de la production de la phase 2 du gisement pétrolier Baleine, conformément au calendrier de production. Avec cette deuxième phase, le gisement Baleine va atteindre une production globale de 60 000 barils de pétrole brut par jour, un niveau inégalé par la production nationale depuis 20 ans, précise le communiqué. Parallèlement, 70 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour seront produits, tout en renforçant la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel pour le secteur de l'électricité. Le démarrage de cette nouvelle phase de production, conjuguée aux perspectives offertes par le développement en cours d'études de la phase 3, devrait porter la production totale de baleines à 150 000 barils de pétrole brut par jour et 200 millions de pieds cubes de gaz associés, conclut la note du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Pour mieux comprendre les retombées de cette production pour l'économie ivoirienne, allons donc à la découverte de ce gisement baleine avec Serge Parfait-Diomand. Il est expert international sur les questions pétrolières et énergétiques. Il répond aux questions de Jean-Claude Comet.
Nous parlons d'énergie encore une fois. Vous le savez, le gisement baleine est entré en production, notamment dans sa phase 2. Et pour mieux comprendre comment fonctionne un gisement, nous avons décidé d'interroger un expert en la matière. Il s'agit de Serge Parfait-Diomande que nous avons donc en ligne pour nous expliquer les différentes étapes donc de la production pétrolière et surtout les retombées pour l'économie ivoirienne. Monsieur Serge Parfait-Diomande, bonjour. La toute première question que nous voudrons vous poser, c'est de nous présenter un peu les caractéristiques de cette exploitation qu'est Baleine.
Donc, comment est-ce qu'il se présente le gisement Baleine? C'est un gisement, effectivement, qui a un potentiel, c'est un gisement de rang majeur, qui a un potentiel de 2,5 milliards de barils en termes de réserves prouvées et qui peut délivrer 3300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Voilà, donc c'est un gisement à gaz naturel associé. Donc il a une profondeur d'eau, la colonne d'eau seulement fait 1200 mètres, c'est-à-dire 1,2 km. Et ensuite, il faut compter au-delà, après le fond de mer, il faut compter encore plus de 2000 mètres, c'est-à-dire plus de 2 km, pour atteindre le réservoir pétrolifère de Baleine. Donc c'est un gisement qui se situe sur le périmètre pétrolifère sédimentaire de la Côte d'Ivoire, notamment sur les blocs CI-101 et CI-802. Voici donc, ainsi dit, les caractéristiques de Baleine.
Alors, concrètement, au plan technique, que signifie passer à la deuxième phase d'exploitation donc, d'un gisement?
Ce qu'il faut attendre de cette phase 2, c'est que déjà, elle nous confirme et nous réconforte dans le fait que la Côte d'Ivoire est en train de suivre sa trajectoire haussière en termes de production énergétique. Il faut comprendre que la production énergétique électrique seulement de la Côte d'Ivoire est de l'ordre de 75% aujourd'hui de l'électricité à base de gaz. Vous voyez, 75% fait par des centrales à gaz. Et le pays connaît une croissance de l'ordre l'ordre de 8% par an en termes de ménages qui demandent à avoir de l'électricité. Donc on ne peut pas rester comme ça à attendre que tout le monde soit submergé par la demande énergétique, notamment électrique. Donc aujourd'hui, avec 75% du potentiel électrogène d'un pays qui repose sur le gaz, et aussi avec une croissance de l'ordre de 8% par an par ménage, il va sans dire que nous sommes un pays qui est très demandeur de gaz. Et donc, ce qu'on attend de la phase 2, c'est voilà, un afflux supplémentaire en termes de gaz naturel. Et là, 70 millions de pieds cubes, c'est vraiment de très bon augure. On dit que la Côte d'Ivoire évolue allègrement vers son autosuffisance énergétique et également son autonomisation énergétique. Voilà, c'est très important de le savoir et pour comprendre un peu dans quels enjeux nous allons. Ce sont les enjeux énergétiques au-delà de tout ce qu'il y a comme enjeux économiques, enjeux socio-économiques, développement, de l'employabilité. Tout ça, ça fait partie du package, mais retenons l'intérêt énergétique de cette découverte.
Et qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cette phase d'exploitation qui est la phase 2 ?
La Côte d'Ivoire, qui avait pendant longtemps une production modeste de l'ordre de 30 000 barils par jour, était jusque-là alors classée dans le rang des producteurs mineurs parce qu'elle faisait moins de 100 000 barils par jour. Et donc, le gisement Baleine est l'occasion idoine pour elle de passer au rang de producteur émergent, c'est-à-dire ceux qui arrivent à produire plus de 100 000 barils par jour. Pourquoi ? Parce que à terme, le gisement Baleine est un gisement qui lui permettra de faire seulement sur ce gisement 150 000 barils par jour de pétrole brut. Ce qui signifie que le gisement Baleine pris tout seul est capable de propulser à lui tout seul la Côte d'Ivoire du rang de producteur mineur à producteur émergent de pétrole brut. Rappelons que l'objectif est d'avoir 150 000 barils produits uniquement à partir du gisement Baleine.
Et bien sûr, selon les indications du ministère, 60 000 barils par jour sont annoncés hein, pour cette phase. Quel potentiel pour l'avenir justement à terme hein, de ce gisement-là, le plus grand actuellement donc, en Côte d'Ivoire ?
À 60 000 barils par jour, ça signifie déjà que grâce à cette phase 2, la Côte d'Ivoire atteint quasiment, on va dire, la moitié de son objectif, hein, qui est d'être à 150 000 barils, pas tout à fait la moitié, mais quasiment la moitié. Et ça peut être plus, hein. Aujourd'hui, on estime 60 000 barils par jour, mais on peut se retrouver à plus que ça, comme l'a montré la phase 1 de Baleine, qui était prévu à 15 000 barils par jour, on s'est retrouvé à plus de 20 000 barils par jour. Donc c'est assez important de comprendre que déjà 60 000, on est déjà à moitié du parcours de l'objectif attendu. C'est pour cela que c'est un jalon très intéressant et très prometteur pour les Ivoiriens qui doivent garder l'espoir, surtout le bon espoir, de voir la filière pétrolifère être une filière qui vient en afflux important pour pouvoir donner du potentiel au secteur énergétique du pays.
Est-ce qu'à terme, on pourra dire que la Côte d'Ivoire sera classée donc parmi les 10 économies pétrolières d'Afrique? Et qu'est-ce que cela pourrait apporter hein, donc, dans le développement économique du pays?
En termes de classement, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire est déjà dans le top 10 des pays attractifs qui ont une bonne visibilité en termes de production pétrolière, parce que déjà le gisement Baleine en lui-même est déjà un gisement de rang majeur. Voilà, c'est pas un petit gisement. Et ensuite, il y a le gisement Calao qui vient lui aussi avec 1,5 milliard en équivalent pétrole. C'est assez important, dont le plan de développement est en cours d'élaboration. Mais il faut comprendre déjà que c'est assez important de saluer cette perspective-là de la Côte d'Ivoire, qui a un positionnement assez intéressant et qui travaille aussi avec des partenaires très intéressants, disons, et qui démontrent d'un savoir-faire et d'un sérieux assez important, un sérieux respectueux, je veux dire, parce que les Ivoiriens travaillent en bonne inclusion avec la compagnie italienne Eni, qui aide la Côte d'Ivoire à avancer dans son plan de développement de son bassin sédimentaires pétrolifères. Et donc là, c'est classé parmi les 10 premiers de l'Afrique. C'est déjà bien, mais ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est vraiment d'atteindre cet objectif dans le temps. Et je crois que tout est parti pour y être. Donc l'employabilité pour les jeunes qui aimeraient vraiment embrasser cette carrière, aller dans le domaine, c'est encore une confirmation pour dire que le pétrole et le gaz jouent encore leur rôle de vecteur de développement socio-économique, humain pour ce pays.
Il se pose aussi, hein, vous convenez avec moi, la question de la gestion efficiente donc, de cette manne pétrolière. On en découvre de plus en plus de ces gisements-là avec donc, les explorations qui continuent. Alors comment gérer tout cela à votre avis?
La gestion de la manne pétrolière en Côte d'Ivoire est placée sous le sceau de la bonne gouvernance pétrolière, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à son niveau, ça se voit. Hein. La Côte d'Ivoire a plusieurs cordes à son arc, mais l'arc pétrolier ne peut pas être une source de soucis en Côte d'Ivoire. Évidemment, c'est une ressource qui nous apportera des flux financiers, bien sûr, des flux de consolidation de notre potentiel électrogène, notamment la production d'électricité. Il peut avoir d'autres produits dérivés qui peuvent venir aussi du pétrole, ça dépend. Maintenant, des industriels, ça dépend des jeunes Ivoiriens, des investisseurs, de ce qu'ils peuvent faire de tous ces potentiels. Avec l'accompagnement, bien entendu, des autorités gouvernementales et du ministre de tutelle, M. Mamadou Sangafoua, qui tous sont disponibles pour accompagner tous les investisseurs qui viennent. Donc, en conclusion, c'est pour dire aussi que ce qui se fait avec Baleine est déjà un produit d'appel pour dire à tous les investisseurs que la Côte d'Ivoire est un pays dont les gisements pétroliers sont des gisements fertiles et qui peuvent venir aussi prospecter sur les autres blocs disponibles. Parce qu'aujourd'hui, le gisement baleine se trouve sur les blocs CI-101 et CI-802, mais il y a encore d'autres blocs qui attendent preneurs, parce que la Côte d'Ivoire est une terre fertile en termes de production de pétrole et gaz.
Monsieur Serge Parfait Diouman, merci pour ces éclairages qui nous permettent de mieux comprendre un peu les retombées donc, de ces différentes productions pétrolières pour la Côte d'Ivoire. On parlait donc du gisement baleine, il y a aussi le gisement Calao, il y a bien d'autres gisements. Merci pour ces éclairages et portez-vous bien. Itinéraire, le parcours de vie de notre invité. Encore une autre personne dans le cadre d'itinéraire, Madame Kissi Chantal. Madame Kissi Chantal, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, Madame Kissi Chantal, aujourd'hui, si on vous demandait de vous présenter, vous pouvez vous dire quoi? Vous êtes restauratrice, vous êtes éleveur, vous êtes quoi? Parce que tout ça, ce sont des activités que vous menez.
Je suis restauratrice. Actuellement, je suis fermier aussi.
Vous avez commencé à faire donc l'élevage depuis quelques années. On va commencer par la restauration, parce que c'est là qu'on vous connaît beaucoup plus. Ça a commencé quand, la restauration? Quand vous étiez jeune ou bien vous avez commencé à 10 ans, 20 ans?
20 ans comme ça.
20 ans, hein? Mais c'est quelque chose que vous aimiez, la restauration, là? C'est quelque chose que vous aimiez?
Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Et vous avez commencé à quelle occasion?
C'est par une camarade que j'ai fait restaurant, parce qu'elle faisait restaurant, donc je partais vers elle. C'est grâce à ça, moi aussi, j'ai fait aussi.
Vous êtes allé à l'école?
Non.
Alors, mais pourquoi l'idée de restauration? Vous avez vu vos camarades faire, mais avant d'approcher vos camarades, qu'est-ce que vous faisiez avant?
Je faisais un peu de commerce, mais ce n'était pas trop ça. J'ai vu qu'avec le restaurant, ça allait m'arranger. J'ai commencé à Koutoungada.
C'est un village de Kounfao, c'est cela?
Oui.
Vous avez commencé avec combien au début?
Au début, j'avais 50 000 francs sur moi. C'est ça que j'ai commencé.
50 000 francs. Mais comment ça s'est passé les premiers moments? C'était facile, difficile?
En ce moment, c'était facile. La viande n'était pas chère, nyam, donc c'était facile.
Vous avez parlé de Koutoungada, c'était votre premier moment, mais pourquoi vous vous retrouvez à Kounfao? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai vu que quand on fait quelque chose, il faut aller devant. J'étais dans un village. Il faudrait que je m'approche à la sous-préfecture pour agrandir ça. À cause de ça, je suis venu.
Est-ce qu'il y a une petite histoire autour de ce lieu qui est à Kounfao aujourd'hui, où c'est votre restaurant bien construit? construire. Hein. À quel moment vous avez décidé de venir construire ça?
Quand j'étais là-bas, c'est ça. J'ai pensé à ça et puis j'ai payé mon terrain et puis je suis venu m'installer.
Vous êtes installé aujourd'hui, le maquis a combien d'années à peu près?
18 ans.
18 ans. Hein. Alors, en 18 ans, comment Chantal a réussi à maintenir ce maquis-là jusqu'à aujourd'hui?
C'est économique. Quand tu travailles, il faut faire économie. Si Dieu a fait que ça marche, il ne faut pas gaspiller l'argent. C'est l'économie qui a fait que je suis allé devant.
Quelles sont les qualités? Quand on veut faire un maquis, qu'est-ce qu'on doit avoir comme qualité pour que ça marche, qu'on ait toujours les clients?
Il faut jouer avec les clients, il faut rire avec eux, il faut les accueillir bien, il faut bien préparer, il faut que ton coin soit propre.
Mais à côté de ça, vous avez une ferme. À quel moment vous avez jugé utile d'aller faire ferme? Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord?
En tout cas, c'est un ami, il venait manger et puis il dit, « Ah, ton travail que tu fais là, peut-être à la longue, tu ne pourrais pas continuer. » Donc, comme tu es à côté ici, je te conseille de rentrer dans la ferme, ça va t'aider. Donc, quand il me disait même, je prenais ça à amusement. Mais chaque fois qu'il me voyait, il me parlait de ça. Donc, un jour, moi aussi, j'ai pris ma décision. Je suis partie au Ghana, j'ai payé mes tolls. Je suis venue un peu. C'est ça, je suis rentrée dans la ferme.
Mais c'était beaucoup d'aventures. Hein? Restaurant, vous connaissez, mais ferme, vous ne connaissez pas. Venir se lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu peur les débuts, là?
Comme je voyais les gens qui sont fermiers, en tout cas, je n'ai pas eu peur.
Alors, comment vous avez commencé? Vous avez pris des conseils? Comment vous a aidé pour installer votre ferme aujourd'hui? On peut dire que parmi ceux qui font l'élevage, vous êtes une des doyennes aujourd'hui.
Au début, c'était un peu dur. Mais puisque le maquis marchait, donc j'ai fait un peu. Et puis, par la grâce de Dieu, ça a pris.
La ferme, justement, vous devez suivre ça. Vous avez le maquis. Comment vous vous organisez pour être là-bas? Pour être ici, et puis les deux affaires tournent.
Quand j'avais commencé au début, là, 6 heures, je suis déjà à la ferme. Je m'en vais visiter là-bas, et puis je me retourne. Je viens faire mon maquis. 16 heures, j'ai fini de faire maquis. Je vais encore à la ferme pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et puis je viens.
Ça dit que vous êtes assez organisé, hein? Vous savez qu'à des moments, il faut se concentrer sur le maquis. Le moment aussi, il faut se concentrer sur la ferme. Aujourd'hui, les deux activités continuent. Est-ce qu'on peut dire que, Kizi Chantal, vous avez réussi votre vie de la jeune femme que vous étiez au début? Vous avez commencé à 50 000. Quand vous regardez votre parcours, qu'est-ce que vous vous dites?
J'ai dit merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi.
Il a beaucoup fait pour vous. Quelles sont les qualités à avoir? Ça veut dire quand on a ces activités, la ferme, le maquis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça continue à tenir? Parce qu'il y a beaucoup qui créent leurs entreprises, qui ont fait des fermes, ils ont fermé. Il y a d'autres qui ont fait maquis, ça ne marche pas. Alors, quels sont les secrets? On ne peut pas dire de tout donner, mais comment maintenir tout ça?
C'est Dieu.
Au-delà de Dieu, vous avez appris quand même les choses mieux organisées aujourd'hui. La ferme, vous connaissez un peu comment une ferme marche. Le maquis, ça, vous êtes expert dedans. Et si on vous demandait de donner quelques conseils aux jeunes filles qui veulent se lancer comme vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
C'est pour prendre ton travail au sérieux. Quand on veut faire un travail, on ne met pas amusement dedans. Moi, quand je travaille. Je ne laisse pas mon travail pour aller faire week-end quelque part. Je suis concentrée sur mon travail même. C'est ça qui a fait que Dieu a fait et puis tout marche.
Tout ça, c'est le commerce. Hein? Quand vous faites le maquis, c'est du commerce. L'élevage, après, c'est le commerce. Comment vous réussissez à calculer tout ça? Savoir que c'est bénéfice, savoir que ça, il faut payer telle chose. Quand vous dites que vous n'êtes pas allé à l'école, comment vous réussissez?
Mais Dieu au contrôle, c'est Dieu qui fait sinon.
C'est votre intelligence. Vous comprenez qu'il faut garder un peu d'argent, des fois il faut investir comme ça. Aujourd'hui, pour la ferme, vous avez combien de bâtiments?
J'ai 15 000.
15 000 têtes. Alors, quels sont les projets aujourd'hui de Chantal? Vous avez une ferme, vous avez un maquis, vous êtes une femme d'affaires, vous êtes à l'intérieur. À Kounfao, c'est une petite ville. On peut vous compter comme les femmes d'affaires de Côte d'Ivoire. Quels sont vos projets encore? Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite?
Actuellement, mon projet, c'est l'hôtel qui est dans ma tête.
Alors, mais pourquoi vous voulez faire plusieurs affaires? Vous avez ferme, vous voulez faire hôtel. Pourquoi vous trouvez qu'il est important de faire plusieurs choses à la fois?
Parce que si l'autre côté ne marche pas, l'autre côté peut marcher. Demain, si je suis fatiguée, je ne peux plus aller à la ferme, comme si je ne peux pas faire restaurant encore. Si j'ai hôtel, là au moins je suis à la maison, je peux gagner à manger. Ça, c'est ça.
Alors, vous avez des filles ici, hein, quand on vient dans votre restaurant. Quel conseil vous leur donnez, ces filles-là?
Puisqu'elles ont commencé avec moi, elles savent comment j'accueille mes clients. Donc si elles font la même chose, je pense que ça va aller.
Vous pensez qu'elles sont sur le chemin quand vous les regardez?
Oui.
Justement, on va terminer cet entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, Kissy Chantal?
Moi, je sais que c'est le travail qui donne. Sans travail, tu ne peux pas réussir. Donc, si tu as pris ton courage pour faire ton travail, Dieu va te bénir. Tu vas aller devant.
En tout cas, le travail paye. C'est ce que Kissy Chantal a décidé de vous donner comme conseil à mes auditeurs et auditrices surtout. C'est une femme accomplie. Oui, qui ne se gêne pas, qui a ses projets, vous l'avez entendu. C'était une manière de vous encourager, vous aussi, dans le cadre d'Itinéraire, la troisième rubrique d'Economia. Merci à vous, Kissy Chantal.
Merci, monsieur.
Alors, merci à vous, mes auditeurs. On se retrouvera avec beaucoup de plaisir avec une autre personne. Merci à vous, au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.